Les podcasts du Collège de France.
C'est d'être là, voilà, c'est un samedi matin, je n'ai pas de cravate, comme le fait remarquer très désagréablement mon collègue Alain Prochian, mais c'est un samedi matin décontracté, vous avez envie d'amphi, très bien, et je crois que cette envie est partagée par ceux qui vont ici même vous parler, à savoir tout d'abord le professeur Alain Prochian, qui est titulaire de la chaire de processus morphogénétique depuis peu au Collège de France, et qui va vous parler de cerveau, évolution et circonvolution. Et puis à 11h30, notre collègue Antoine Compagnon, qui est professeur de la chaire de littérature française moderne et contemporaine, vous parlera de romans et mémoires. Alors c'est, pour moi qui suis administrateur depuis maintenant un an, c'est la deuxième fois que j'introduis cette matinée du samedi matin, je crois rituel maintenant. En tout cas, elle a été initiée par la ville de Paris depuis 2002, avec comme idée d'ouvrir finalement l'enseignement, les cours, les conférences à un public large. À vrai dire, c'est absolument notre mission ici au Collège de France. Et la seule chose que je voudrais vous dire, parce qu'elle est très pratique, c'est que je vous conseille vivement, si vous souhaitez en savoir plus sur le Collège de France, si vous ne le saviez pas déjà, eh bien, il faudrait que vous vous connectiez au site du Collège de France, dans la mesure où pratiquement l'essentiel des cours, des enseignements se trouvent disponibles sur le site web. Ils sont téléchargeables et je dois dire que depuis quelques 8 mois où nous avons fait un effort important de diffusion en mettant nos cours sur podcast, donc vous pouvez faire une balado-diffusion ainsi de ces, nous faisons une balado-diffusion de ces cours, nous avons eu 1 million de téléchargements, ce qui est beaucoup, et ce qui montre bien l'intérêt du public. Alors vous êtes peu nombreux ici, mais le retentissement d'une conférence comme celle-là peut aller bien au-delà. Donc merci Alain Prochian de bien vouloir nous parler de cerveau, évolution et circonvolution.
Merci Pierre. Donc bonjour. Donc oui, je vais vous parler du cerveau. Du cerveau, c'est-à-dire de cette chose-là. C'est pas très ragoûtant, hein, je veux bien l'admettre. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un organe vivant. Ouais, c'est ça que j'ai voulu illustrer sur cette diapositive, avec des vaisseaux, avec des méninges. Des fois, les vaisseaux claquent, il y a des petits infarctus locaux. Ça repousse vaguement, pas toujours. Des fois, ça se reproduit. Et malgré tout, c'est un organe qui permet de construire des théories, qui envoient des fusées dans la Lune, qui construisent des ponts, des fois ça rate. Hein. Bon, mais, en général, ça marche. Donc, et là, si vous voulez, c'est un petit peu un petit miracle, parce que c'est ça qui a la consistance du porridge tiède, comme dirait Turing, qui construit toutes ces choses. Et nous, il faut qu'on comprenne comment ça se construit. Quand je dis ça, je veux dire pas ça. C'est-à-dire que le cerveau, ce n'est pas un ensemble de rouages avec des machines ou des contacts de type mécanique ou électronique. C'est totalement différent. Car ça est au cerveau, ce que ça est à autre chose. Vous aurez compris que je ne crois pas en l'Immaculée Conception. Du tout. Voilà. Et pour comprendre comment se construit un cerveau, il faut venir de très loin, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment se développe un organisme vivant. Alors, la grande question qui est posée aux embryologistes, puisque finalement, quelqu'un qui s'intéresse à la façon dont se développe ou évolue un cerveau est un embryologiste, un morphogénéticien en ce qui me concerne, eh bien, c'est la question de comment le plan d'un organisme, au départ, se passe de génération en génération. C'est la première question. Et cette entrée, parce que cela vous paraît simple, hein, quand vous voyez un humain sortir d'un humain, ou un singe d'un singe, ou un poulet, enfin, d'un œuf de poulet, c'est-à-dire d'un poulet finalement, eh bien, pourtant c'est loin d'être simple. C'est loin d'être simple parce qu'au départ vous avez une cellule, et à l'arrivée vous avez des milliards de cellules, des milliards de cellules. Et entre cette cellule et ces milliards de cellules qui sont organisées pour faire un organisme dont vous auriez pu prédire la forme, en connaissant l'origine de la mère, eh bien, entre cet œuf, cette cellule unique, et cet organisme, Il y a des milliards de décisions qui se prennent, prolifération, différenciation, migration, mort, etc., qui aboutissent toujours, toujours au même plan, ce qu'on appelle l'imago, l'image de l'espèce. Même si, entre les individus qui composent cette espèce, il y a des différences qui sont liées à une autre action, qui est ce qu'on appelle l'individuation, dans laquelle, évidemment, le système nerveux joue un rôle fondamental, et j'y reviendrai dans un instant. Et donc, il est clair que quand, dans le laboratoire de Thomas Morgan, à la fin, je ne dirais même pas du siècle précédent, mais du siècle d'avant, c'est-à-dire vers la fin des débuts du 20e siècle et à la fin du 19e siècle, quand ces mutants ont été isolés, vous voyez que ce sont des monstres, hein, où l'organe d'un segment, ici l'antenne à la, patte, à la tête avant de la mouche, se transforme en patte complètement, eh bien, on s'est dit, on va mettre la main sur les éléments génétiques qui permettent de construire cet organisme, c'est-à-dire sur le plan tel qu'il se passe à travers le génome de génération en génération. Et effectivement, ces gènes, qu'on a appelés des gènes homéotiques, parce que l'organe d'un segment est transformé en l'organe homologue d'un autre segment, l'autre segment étant le segment thoracique numéro 2, c'est-à-dire que les petits organes, les petites cellules embryonnaires ici qui se développent selon le programme antenne s'imaginent, entre guillemets, qu'elles sont sur le deuxième segment thoracique et adoptent les processus ou les programmes morphogénétiques qui conduisent à l'organe approprié à cet endroit, mais pas à celui-là. C'est très simple. Vous avez une main, vous avez un pied. Si vous dissociez une main ou un pied, vous aurez les mêmes cellules, des fibroblastes, des poils, du sang, du nerf, enfin, toutes sortes de choses. Mais vous n'aurez pas de différence entre les cellules qu'il faut pour construire une main et les cellules qu'il faut pour construire un pied. Et pourtant, à cet endroit ici, vous construisez une main, dans celui-là, vous construisez un pied. C'est-à-dire, en fonction de la position, les mêmes cellules vont développer des programmes morphogénétiques distincts. Et c'est exactement ce qui se passe chez cette mouche, où votre antenne se transforme en patte. Donc ces gènes ont été identifiés beaucoup plus tard. Quand ces premiers mutants ont été identifiés, au début du XXe siècle, il était clair qu'on ne connaissait même pas la nature chimique du gène. Hein. Les gens pensaient que c'était des protéines. La nature chimique du gène a été dévoilée en 1940 par les expériences d'Evry sur l'infection par les streptocoques. Mais on savait que c'était sur les chromosomes, on ne savait pas ce que c'était. Donc le clonage, l'identification des gènes, était faite beaucoup plus tard, c'est-à-dire dans les années 60. Et ces gènes de développement, on les appelait gènes de développement, qui rendent compte du fait qu'aux différentes positions de l'axe antéro-postérieur, par exemple de la mouche, eh bien, vous allez développer des organes de types différents. Ces gènes sont organisés sur un chromosome, le long d'un axe d'un chromosome, antéro-postérieur aussi, du chromosome, on pourrait dire 3', 5', en fait. Et cela veut dire que, dessiné à la surface de votre chromosome, vous avez ce qu'on pourrait appeler un drosophile oculus, c'est-à-dire une petite image de la mouche. Et c'est ainsi que quand vous passez ces chromosomes de génération en génération, eh bien vous passez en même temps le plan de l'animal. De façon tout à fait... Alors, ces gènes de développement d'une classe particulière qu'on appelle homéogène, à cause de ces transformations qu'on a dites homéotiques, parce que l'organe d'un segment est transformé par l'organe homologue d'un autre segment, c'est l'origine sémantique de ce terme, sont caractérisés par une petite signature. Ils ont tous une séquence en commun. Et sur la base de cette séquence, on a été chercher l'existence des mêmes séquences chez les vertébrés, c'est-à-dire chez vous, ou chez moi, chez les souris, etc. Et on a trouvé la même famille de gènes chez les vertébrés. Et ces gènes chez les vertébrés sont aussi organisés pour le codage de la structure du corps, de l'avant vers l'arrière, le long de l'axe antéro-postérieur du corps, et de 3' en 5', le long de 4 chromosomes, cette fois-ci pas un seul, 4. Car au cours de l'évolution, les complexes homéotiques ont subi deux divisions, un donne 2 et 2 donne 4. Mais ce qui est frappant, si on regarde ces gènes, c'est qu'ils sont homologues à travers l'évolution, c'est-à-dire on dit orthologues, c'est-à-dire que vous voyez ici que tous ces gènes en rouge dérivent d'un ancêtre commun qui est le même gène. Ce qui fait qu'ils sont dans la même position, ils codent pour les organes qui sont les plus antérieurs, et en même temps, ils sont fonctionnellement remplaçables, c'est-à-dire que si je supprime labial chez la mouche et je le remplace par OXIN1 de souris ou d'homme, je peux réparer ma mouche. Donc c'est probablement une des preuves les plus concrètes que nous ayons aujourd'hui de l'existence d'un ancêtre commun entre les arthropodes et les vertébrés qui se sont séparés au point de vue des lignages il y a environ 600 millions d'années. Donc chaque, au fond, c'est un tube nerveux par exemple, et je resterai au système nerveux pour l'instant. Dans un tube nerveux, vous pouvez voir que chaque segment, en tout cas jusqu'à ce niveau-là, car le niveau plus antérieur est une autre histoire dont je vais vous parler un peu plus tard, jusqu'à ce niveau-là, est caractérisé par une combinatoire d'expressions de ces gènes de développement, qu'on peut symboliser par une couleur, comme ici, et selon cette combinatoire, eh bien, ces régions vont développer des propriétés, des types neuronaux distincts. Vous avez donc l'axe antéro-postérieur, vous avez aussi un axe dorso-ventral, évidemment, ce n'est pas un organisme à une dimension, un animal, vous avez aussi un axe dorso-ventral, et dans l'axe dorso-ventral, vous voyez ces différents dégradés de couleurs, ils correspondent aussi à l'expression de différents gènes de développement, dont l'induction est provoquée par la présence de morphogènes, eux-mêmes sécrétés par des structures comme ce qu'on appelle comme la corde ici, la notochorde, ou un peu plus haut ici, la plaque du toit. Donc je n'insiste pas, mais cette notochorde provoque des gradients de morphogènes qui font que des gènes différents vont être exprimés à différents niveaux maintenant dorso-ventral, ce qui fait qu'en fait votre tube nerveux, qui est une plaque, avant d'être un tube bien entendu, eh bien, votre tube nerveux est divisé de façon antéro-postérieure et dorso-ventrale en petits carrés, somme toute. C'est-à-dire que chacun de ces petits carrés est caractérisé par une combinatoire d'expression de gènes de développement qui va lui donner un devenir particulier sur le plan à la fois morphologique mais aussi physiologique. Je vous ai dit que ce système de combinatoire qui permet à chaque cellule dans l'organisme de savoir où elle est, de savoir ce qu'elle doit faire en fonction de là où elle est sur le plan du développement, pour nous en tenir au système nerveux, s'arrête à peu près à ce niveau-là, qui est le rhombomère 1 ou 2, la frontière rhombomère 2, rhombomère 1. Mais les mêmes gènes qui sont responsables du développement morphologique du système nerveux sont aussi exprimés dans les régions les plus antérieures, celles qui président au développement essentiellement du cortex, enfin du cerveau. Et la découverte de ces gènes vient de nouveau, de comparaison avec ce qu'on sait des arthropodes. Chez les mouches, vous avez des gènes qu'on appelle OTD, Empty Spiracle, Distales, là j'en ai mis que 3 évidemment pour simplifier, et ces gènes qui sont aussi des gènes à homéoboîte ou homéotique, ces gènes ont des orthologues, maintenant vous savez ce que c'est chez les vertébrés, OTX2, OTX1, MX2, MX1, et c'est la combinatoire d'expression de ces gènes le long du neuroépithélium d'un cerveau qui détermine la fonction de chacune de ces régions et en même temps que sa forme ou sa différenciation morphologique. Cette expression, cette combinatoire d'expressions à différents niveaux ou dans différentes régions du système nerveux central, de cette plaque qui est le cerveau, culmine finalement au niveau fonctionnel dans la détermination de ce qu'on appelle les aires de Brodmann, c'est-à-dire ces différentes régions du cerveau qui sont impliquées dans différentes fonctions. Par exemple, vous voyez ici que vous avez une sorte de compartimentation, et cette compartimentation naît de cette combinatoire d'expression des gènes de développement extrêmement précocement au cours du développement. Voilà, par exemple, ici, vous avez les aires 17 et 18, qui sont des aires visuelles, vous avez des aires motrices, vous avez des aires sensorielles, vous avez les aires du langage, vous avez les aires olfactives. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'au cours de l'évolution, ici symbolisée par le hérisson, le lémurien, le kinkajou ou l'humain, ce que vous avez, c'est à la fois une augmentation de la surface du cerveau. Le cortex humain fait 2 mètres carrés pour 4 mm d'épaisseur. C'est très peu comme épaisseur, mais c'est quand même 2 mètres carrés. On peut se coucher dans son cerveau, à condition de le repasser. Le cerveau, c'est comme la Suisse. Si on pouvait le repasser, ça serait un grand pays. Et non seulement vous avez une augmentation de la surface de 400 centimètres carrés à 2 mètres carrés, par exemple du singe à l'homme, vous avez aussi un déplacement des bords. C'est-à-dire que les territoires, par exemple, qui sont responsables des fonctions olfactives, sont réduits chez Sapiens par rapport au singe. Par contre, les territoires qui sont dévolus aux fonctions cognitives sont augmentés. C'est-à-dire que l'évolution, c'est l'augmentation de l'évolution la l'apparition de Sapiens, c'est non seulement l'augmentation de la surface du cortex, mais c'est aussi une facilité. Enfin, c'est aussi une facilité. C'est aussi, ça correspond aussi à un déplacement des bords. Et c'est très important de savoir comment on déplace les bords, c'est-à-dire que vous faites un plan, vous augmentez votre studio de 30 mètres carrés en appartement bourgeois de 120 mètres carrés, mais en même temps, vous augmentez la cuisine, vous réduisez la salle de bain, enfin, vous faites ce que vous voulez. Chez Sapiens, on a augmenté essentiellement les aires cognitives, les aires associatives et les aires du langage. Je vais vous donner quand même, puisqu'on parle d'évolution, quelques repères chronologiques qui sont importants. C'est-à-dire que on pense que les premières bactéries sont apparues sur Terre il y a environ 3,5 milliards d'années. Et les premiers protozoaires, c'est-à-dire organismes eucaryotes, il y a 1 milliard d'années. Les métazoaires, la grande expansion des métazoaires, c'est-à-dire des animaux pluricellulaires comme vous et moi, c'est environ 600 millions d'années au moment où, je vous l'ai rappelé, nous nous sommes séparés des arthropodes. Et puis, il y a eu tout le développement de l'ère secondaire avec la radiation des reptiles très importante. Hein, les reptiles ont vécu environ 170 millions d'années. Enfin, je parle des grands reptiles, les dinosaures, les grands sauriens hein, qui font la joie des enfants et qui, avec une extinction à la fin du secondaire, il y a moins 70 millions d'années, mais quand même, ils ont tenu 150 millions d'années, hein, c'est pas mal, c'est même beaucoup. Bon, il y a eu des météorites qui ont porté la fin du jeu, qui ont sifflé la fin du jeu, mais... Et puis, évidemment, la grande radiation après des primaires, et nous, les primates, nous sommes développés essentiellement au cours du tertiaire et du quaternaire. Pour en rester aux hominidés, il faut savoir que les Lucie, hein, notre ancêtre, ou Toumaï, hein, environ disons, entre 3 et 5 millions ou 10 millions d'années, on ne sait pas très bien, était une petite bête avec un cerveau de 300 à 400 cm3, une petite taille, 1,10 m, elle était bipède. Hein, était bipède. Et puis, on est passé assez rapidement, vous voyez ici, à Homo habilis, Homo erectus, au néandertalien, et puis à Homo sapiens. Et vous voyez que cette évolution, somme toute extrêmement rapide, s'accompagne d'une augmentation du cerveau et aussi d'une augmentation de la taille. Mais ce que vous voyez tout de suite aussi, c'est que l'augmentation du cerveau n'est pas proportionnelle à celle de la taille. Hein. Quand vous multipliez votre cerveau ici par 4, vous multipliez votre taille par 1,2 ou 1,3. Ce qui veut dire que le rapport entre la surface du cortex, entre la taille du cerveau, et la surface ou la taille du corps, prend des allures exponentielles, extraordinairement développées, dans le genre homo. Et ça, c'est un point sur lequel il faut insister, parce que un organisme, un système nerveux, au départ, ça sert essentiellement à bouger. Ça sert à bouger pour aller chercher sa nourriture, ça sert à bouger pour fuir un prédateur, ça sert à bouger pour trouver ou fuir un partenaire sexuel, selon les cas. Ce qui est très différent des plantes, hein, qui bien entendu n'ont pas de système nerveux. Chez les plantes, tout arrive par le sol, la nourriture, les minéraux, par le soleil, l'énergie, et la sexualité par les abeilles ou par le vent. Donc les plantes n'ont pas besoin de système nerveux, alors que les animaux ont évidemment besoin d'un système nerveux. Mais ce sont des fonctions de base, d'une façon sensorimotrice, qui demandent une adaptation du cortex ou du cerveau au corps. Et c'est pour ça que quand vous mettez en ordonnée le volume du cerveau et en abscisse le poids du corps, vous avez finalement quelque chose de relativement linéaire dans le genre chez les grands singes, chez les grands primates. Mais ça cesse de l'être dès que vous passez dans le genre homo. Vous voyez ici déjà Homo habilis, et hors du commun, les Australopithèques, Lucie, sont vaguement quelque part entre le singe et le genre homo. Et puis, au fur et à mesure que l'on avance dans l'évolution d'homo, jusqu'à Homo sapiens, il y a environ 120 000 ans, c'était hier, il faut le réaliser, 120 000 ans, c'est rien du tout. Imaginez que les dinosaures ont vécu 170 millions d'années. Nous, on en a 120 000, on est à 1 000e. Ça ne tiendra pas 170 millions d'années, je ne voudrais pas vous décourager, mais... De toute façon, il n'y a pas besoin de décourager parce que dans 3 milliards d'années, le système solaire explose, donc ce n'est pas grave. Mais quand même, voyez à quel point nous sommes sortis simplement de cette fonction qui est une fonction au fond sensorimotrice, adaptée à la nutrition et à la reproduction pour l'essentiel. Et ça, c'est lié au développement d'aires qui sont les aires associatives et les aires cognitives. Et c'est pour ça que, évidemment, même si nous sommes des animaux, en aucun cas nous pouvons penser que nous ne sommes pas à nature de la même façon, dans la mesure où nous sommes très très loin. Nous avons, voyez, nous avons 900 cm cubes de trop. Voilà. Donc 900 cm cubes de trop, ce sont les centimètres cubes qui font les savants, les poètes, les suicidés, tout ce qui appartient et qui caractérise l'espèce humaine d'une certaine façon. Et il n'y a pas de marche arrière. Voilà, c'est comme ça, faut faire avec. Hein. Bon, okay, c'est pas très long, donc ça va. Donc voici ici notre famille, et ce que je voulais vous faire remarquer ici, c'est que même si les chimpanzés sont très proches de nous, ils sont quand même aussi très éloignés de nous par leur fonction cognitive. Je reviendrai sur ce point dans un instant. Alors, la tête. Faut savoir que la tête, telle que vous la voyez ici, c'est pour l'essentiel du système nerveux. La peau, les muscles que vous avez sur les parties antérieures, vos os frontaux, les calottes crâniennes, à l'exception de l'os occipital, sont tous des dérivés du système nerveux. Donc, ce qui est à l'avant, ici, c'est du système nerveux. Des dérivés du neuroectoderme, pour ce qui est du cerveau, et de ce qu'on appelle la crête neurale, pour ce qui constitue les os et les muscles de la face. Donc, ce sont des os et des muscles qui n'ont pas la même origine embryologique que les os et les muscles du corps. C'est du système nerveux. Et toute cette région antérieure, elle dépend de l'expression d'un petit nombre de gènes, dont un dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle OTX2, qui est l'équivalent d'orthodenticol chez la mouche. Et ça, c'est l'arbre généalogique de ce gène. Et si je vous montre cet arbre généalogique, qui commence à l'hydre, au premier diploblast, je ne sais pas où c'est ici, j'ai une très mauvaise vue, cet orthologue existe déjà chez les premiers organismes du genre diploblast. Ça veut dire que la tête, le cerveau, l'avant, n'est pas une invention récente. C'est une invention qui a démarré dès les premiers métazoaires. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu plusieurs cellules, il a fallu que l'organisme sache quelles étaient les cellules qui sont à l'avant et quelles les cellules qui sont à l'arrière. Et à vrai dire, même au niveau unicellulaire, il y a déjà une polarité. Vous avez des organismes unicellulaires qui ont un œil sous forme d'un photorécepteur qui est posé à l'avant de l'animal unicellulaire et qui lui permet de se déplacer dans l'organisme, dans le milieu, de fuir ou d'être attiré par les rayons lumineux, par les photons. Et il est probable que les gènes qui sont impliqués dans la formation de cet œil primitif sont aussi impliqués, si on en croit l'idée d'une origine monophylétique de l'œil, sont aussi impliqués dans la formation de notre œil à nous. Toujours est-il que ce gène, OTX2 ou OTD, est exprimé depuis les sédentaires jusqu'aux souris, donc à Sapiens, et qu'il est responsable de toutes les parties avant de ces organismes. À tel point que si je retire OTD chez une mouche, voilà ici un système nerveux de mouche, alors le système nerveux des arthropodes, ce sont des ganglions. Ce sont des ganglions, ça veut dire que ce ne sont pas des plans comme chez nous. Chez nous, on a inventé la plaque neurale, le tube nerveux. Je dis c'est un plan et quand je le retire, ça fait un tube qu'on appelle le tube neural. Chez les arthropodes, c'est des ganglions. Donc, les ganglions, c'est sympa, mais ce n'est pas très sympa parce que le rapport surface-volume n'est pas très bon chez un ganglion et ça impose une limite à l'augmentation de la taille du système nerveux. Si vous avez un plan, vous pouvez augmenter autant que vous voulez la surface de votre système nerveux, il suffit ensuite de le replier pour le mettre là-haut et ça se plisse, donc ça peut se ranger facilement. Si vous avez un ganglion, vous augmentez le ganglion, la taille du ganglion, ça devient lourd, ce qui est toujours pénible à transporter, un cerveau lourd. Et oui, c'est comme dans le film, c'était Gérard Houry, le cerveau s'appelle justement. Oui. Mais en même temps, sur le plan de l'irrigation, ce n'est pas bon, parce qu'il faut que les vaisseaux sanguins aillent irriter chaque cellule. Le cerveau, vous savez, dans un cerveau, vous avez 5 à 10% de neurones. Tout le reste, c'est des cellules vasculaires, c'est des cellules mésenchymales, c'est tout ce qui nourrit le cerveau, qui nourrit le neurone, d'une certaine façon. Ou des cellules gliales, qui sont importantes pour la physiologie aussi, je ne vais pas dire de bêtises. Enfin, si, je dis toujours des bêtises, de toute façon, c'est pas grave. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que vous ne pouvez pas admettre qu'un neurone soit à plus d'une certaine distance minimale d'un vaisseau sanguin, sinon, évidemment, il s'asphyxie. Et c'est pour ça que l'invention du plan est une très belle invention. Donc, il reste que si je retire OTD chez une mouche, je perds ici le cerveau de la mouche, c'est-à-dire que je perds les deux ganglions protocérébraux. Et que si je retire OTX2 chez une souris, je perds aussi le cerveau. Donc ça veut dire que ces gènes sont orthologues d'une certaine façon, aussi au niveau fonctionnel. Donc la belle manip à faire, c'est de retirer le gène de la mouche et de remplacer par le gène de l'homme. Donc si je remplace le gène de la mouche par le gène de l'homme, je rends son cerveau à la mouche. C'est pas mal. Alors, la manip n'a pas été faite dans le sens inverse, mais pas sur l'homme, sur la souris, elle a été faite. Donc, quand vous prenez, retirez le gène de souris et que vous le remplacez par le gène de mouche, vous voyez que vous avez la formation d'un embryon qui n'est pas mal quand même, hein, à condition d'avoir mis les séquences régulatrices, c'est-à-dire les séquences qui permettent l'expression du gène pendant une certaine durée et au bon endroit. Mais le gène lui-même, ce qu'on appelle la séquence codante, de la mouche peut très bien remplacer celle de la souris. Ce qui veut dire qu'elle peut probablement remplacer celle de l'homme tout aussi bien. Comme je vous le dis, on n'a pas fait la même. Et ça, ça attire l'attention sur le fait que ce qui est très important dans ces gènes de développement, ce n'est pas tellement ce qu'on appelle les séquences codantes, mais ce sont les séquences qui permettent la régulation de l'expression de ces séquences codantes. Quand on vous dit qu'on a autant de gènes qu'une mouche, en gros, deux fois plus, 30 000 gènes chez Sapiens contre 15 000 chez la drosophile, il y a aussi 30 000 gènes chez la souris, on n'est quand même pas des souris. Donc, ça veut dire que, fondamentalement, ce qui a changé, ce n'est pas la nature du gène, c'est la durée de son expression, hein, et le lieu de son expression. Et ça, ce n'est pas lié à la séquence du gène, c'est lié à des séquences qui régulent l'expression de ce gène. Hein. Et en fait, c'est très intéressant parce que, de ce fait, on s'est penché sur les modifications, les changements qu'il peut y avoir entre le singe et l'homme dans l'expression de ces gènes et même dans la qualité de ces éléments régulateurs. Alors, comme vous savez, on dit souvent l'homme et le chimpanzé ont 98% d'homologie, d'identité. C'est vrai pour les séquences codantes. Mais il ne faut pas oublier que les séquences codantes, c'est 3% du génome. Il y a à côté 97% du génome qui n'est pas du génome codant et qui, justement, est du génome régulateur. Or, on ne sait pas, au niveau de ce génome régulateur, quelle est notre proximité génétique avec les chimpanzés. Donc, je pense qu'il faut faire très attention, ce n'est pas ce qu'on appelait dans le temps, vous savez, le DNA poubelle. Il n'y a pas de DNA poubelle. Hein. Tout ce qui ne sert à rien n'existe pas en biologie, plus ou moins, sauf l'appendice. Mais peut-être que ça sert à quelque chose. Donc, ces séquences ont été identifiées, et elles sont en train d'être identifiées, je crois que quand on aura identifié la nature de ces séquences, de ces gènes qui ont évolué extraordinairement rapidement, ces éléments régulateurs qui ont évolué extraordinairement rapidement, parce que Sapiens est arrivé en très peu de temps, hein, vous avez vu tout à l'heure l'échelle, eh bien, je pense qu'on aura une idée de la véritable distance qu'il y a entre nous et les animaux, et peut-être qu'il faudra un petit peu rectifier certains propos de sens commun qui ont été tenus au cours des dernières années. Ce que je dis, c'est que il y a la taille, mais ce n'est pas ce qui compte forcément le plus. Il y a la taille, mais il y a aussi les bords. C'est-à-dire, ce n'est pas tout d'avoir un grand cerveau, encore faut-il placer les bords au bon endroit. C'est-à-dire, pour ce qui est de Sapiens, avoir les tailles qui sont suffisantes pour avoir un cortex cognitif ou linguistique d'une taille suffisamment importante pour appartenir au genre homo, à notre espèce. Et cette modification de la position des bords est également liée, rappelez-vous, à l'expression combinatoire de ces gènes de développement. Plus que ça, elle est liée au rapport d'expression, de niveau d'expression entre ces gènes. C'est pour ça que les éléments régulateurs sont très importants. Je vous donne un exemple ici, avec deux gènes simplement. Le gène EMX2, qui est exprimé dans les régions postérieures et centrales du système nerveux. C'est une souris. Hein. Le gène PAX6, qui est un gène de la même famille, qui est exprimé dans les régions antérieures et plutôt latérales, de ce même système nerveux. Si je diminue l'expression de MX2, qu'est-ce qui se passe? La taille générale de mon cerveau ne change pas, mais j'augmente les aires sensorielles et motrices aux dépens des aires visuelles. Par contre, si je supprime ou si je diminue l'expression de mon gène PAX6 dans le mutant Sinoculis ou Psy, j'augmente la taille des aires visuelles aux dépens des aires sensorielles et motrices. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? En modifiant le niveau d'expression relatif de cette paire de gènes, qui s'exprime de façon complémentaire, comme vous pouvez le voir, dans le neuroépithélium, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé mes bords. Et c'est extrêmement facile à voir, hein. De toute façon, ici, vous voyez le système sensoriel. Chez la souris, les vibrisses que vous voyez ici ne sont pas des moustaches, mais des terminaisons sensorielles, qui, à travers un circuit un petit peu complexe, finissent par se projeter au niveau du cortex. Il y a autant de représentations en tonnelet dans le cortex qu'il y a de vibrisses sur le museau de votre souris. Et vous pouvez voir ici, hein, toutes ces petites taches marron correspondent à des terminaisons qui viennent, après relais évidemment thalamique, du museau de ma souris. Eh bien, ça, c'est le cortex sensoriel chez une souris. Vous voyez que si je prends un hétérozygote de MX2, c'est-à-dire je retire juste une copie de mon gène de MX2, qu'est-ce que je fais? J'augmente mes aires sensorielles aux dépens de mes aires visuelles. Et je ne diminue pas, je ne modifie en rien la taille globale de mon cerveau. Donc vous voyez que ces gènes de développement, qui sont responsables de la construction, sont aussi responsables de la façon dont je déplace les bords, comme je fais le plan, comme je ferai le plan d'un appartement, quand je construis le cortex de ma souris. C'est vrai aussi pour d'autres régions, des régions très importantes. Il y a une région très importante qui s'appelle l'isthme, qui est à la frontière du mésencéphale et du métencéphale. Elle est très importante sur le plan des pathologies en particulier, parce que juste à l'avant de l'isthme ici, vous avez une petite région où on met les neurones dopaminergiques. Les neurones dopaminergiques sont les neurones qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson. Ce sont aussi des neurones qui sont impliqués dans la régulation de l'humeur ou de l'addiction. Ce sont les neurones du plaisir, d'une certaine façon, parce que l'addiction, c'est toujours l'addiction au plaisir, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est pour ça qu'il y a le comportement addictif. Donc, cette bord est liée à l'expression de deux gènes de développement, GBX2, qui est dans ce domaine-là, et OTX2, qui est dans ce domaine-là. Et le bord se forme là où ces deux gènes se confrontent. Si vous diminuez ou si vous augmentez l'expression d'un de ces deux gènes dans des expériences génétiques relativement simples, vous allez déplacer le bord, soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Et si vous le déplacez vers l'arrière, vous augmentez ce domaine, et donc vous allez augmenter le nombre de neurones dopaminergiques. Si vous déplacez le bord dans l'autre sens, vous allez diminuer le nombre de neurones dopaminergiques. Et ça, de nouveau, vous voyez comment ça se passe, hein. Vous pouvez changer la place de votre isthme considérablement dans la construction de votre cerveau sans modifier la taille totale de votre cerveau. De nouveau, ce que vous avez fait ici, c'est que vous avez modifié un bord. Vous n'avez pas modifié la taille du cerveau. Et ça se fait. Hein. Et le résultat, c'est qu'on va avoir une souris adulte, hein, qui va être modifiée dans sa construction et qui va avoir un comportement modifié. Voici ici une souris normale. Vous mettez une souris dans ce qu'on appelle un open field. Les souris ont horreur du vide. Donc elle va commencer à explorer, hein, et très rapidement, elle va aller se mettre dans un coin et dormir, surtout si c'est dans la journée, parce que les souris sont des animaux nocturnes. Mais si vous avez augmenté génétiquement, vous avez déplacé votre bord génétiquement, et augmenté la taille de votre noyau dopaminergique, vous voyez, vous mettez votre souris, et elle ne trouvera jamais le repos. Elle est agitée, c'est une souris qui ne peut pas se reposer. Hein. Mais c'est une souris adulte, hein, c'est une souris, vous la voyez dans une cage, vous ne ferez pas la différence avec la souris sauvage. Et c'est plus fort chez les femelles que chez les mâles, il y a un caractère qui est lié au sexe. Au-delà de cette formation du plan général au niveau du cortex dont je viens de vous parler, il y a aussi la question de la construction réelle de l'organisme en fonction de l'activité. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi quelque chose qui est très important, parce que, bien entendu, nous sommes des animaux génétiques, mais nous ne sommes pas uniquement que des animaux génétiques, nous sommes aussi des animaux épigénétiques. C'est-à-dire que nous sommes tous différents, bien qu'appartenant à la même espèce, et serions aussi différents d'un frère jumeau dans la mesure où nous avons une expérience qui est différente de celle d'un frère jumeau ou d'une sœur jumelle. C'est pour ça qu'on ne peut pas cloner Sapiens. On peut le cloner sur le plan génétique, mais on ne peut pas le cloner sur le plan de son histoire. Les vertébrés, enfin, les vertébrés, oui, mais pratiquement tous les animaux, mais surtout les vertébrés, et au plus haut point sapiens, parce qu'il a des interactions sociales qui sont extraordinairement importantes. Et donc, il est très, très dépendant de son environnement, à la fois social, culturel, affectif, pour sa construction. La construction d'un cerveau est dépendante de cette interaction avec le monde. Un cerveau ne se construit pas tout seul. Et cela est lié au fait que si je n'ai pas de stimulation de mes systèmes sensoriels, vous voyez ici par exemple de nouveau ces vibris, c'est un point assez simple, qui fait une première synapse dans le tronc cérébral, une deuxième dans le thalamus, et qui va projeter sur le cortex, donc qui construit le cortex, eh bien si je fais une ablation des vibris avant le septième jour postnatal chez un raton, très délicatement, sous anesthésie bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la projection cérébrale qui correspond disparaît et que les zones adjacentes augmentent et vont envahir cette zone. C'est-à-dire que si je bloque la fonction physiologique, si je ne stimule pas mon système, je fais des erreurs dans la construction de mon cerveau. D'accord? Et ce qui est vrai de cette fonction-là est vrai de toutes les fonctions. C'est-à-dire que la construction d'un cerveau dépend évidemment du contenu génétique. Je ne ferai jamais un cerveau de singe avec un œuf humain, sauf si le génie génétique s'en mêle. Mais naturellement, je ne ferai jamais ça. Mais par contre, pour construire mon cerveau humain, pour construire un cerveau, je vais avoir besoin de le stimuler sur le plan sensoriel, toutes les modalités sensorielles étant incluses dans cette proposition, y compris, je vous le disais, affective, sociale, émotive, etc. Cela peut se faire pendant une certaine période, qu'on appelle la période critique, car si je fais cette ablation après le septième jour postnatal, par exemple chez mon animal, eh bien je ne vais plus modifier la surface, je ne vais plus modifier en profondeur l'architecture de mon cortex. La période critique est une période très importante au cours du développement, parce que certains d'entre vous s'imaginent sans doute qu'ils sont plastiques jusqu'à un certain âge et puis qu'ils cessent de l'être. C'est une grave erreur. Vous n'êtes pas plastique jusqu'à un certain âge, plastique pendant une certaine période, et vous cessez de l'être après. Cesser de l'être, c'est beaucoup dire. On l'est moins, mais on l'est toujours. Et cette période pendant laquelle les interactions sociales, environnementales, sensorielles, au sens large, peuvent modifier la structure du cortex, eh bien cette période, modifiée profondément, en profondeur, la structure du cortex s'appelle la période critique. Évidemment, cette période critique est différente selon les modalités sensorielles. Par exemple, pour le langage, il y a des mots que vous ne pourrez plus apprendre si vous ne les avez pas entendus dans les 6 premiers mois de votre existence. Des phonèmes qui sont, par exemple, les japonais ne peuvent pas faire des choses, nous on ne peut pas dire certains phonèmes japonais. Pour le système visuel, binoculaire, c'est vers 4-5 ans que si on a un enfant myope qui a un strabisme convergent et qu'on a parmi les yeux en face des trous, si j'ose dire, il développera ce qu'on appelle une amblyopie, c'est-à-dire qu'il aura un œil parfait mais qu'il ne sera pas connecté comme il faut au niveau cortical. Et ici, par exemple, ce cas très précis, vous avez une zone du cortex qui s'appelle la zone binoculaire qui reçoit des innervations indirectement toujours des deux yeux, et dans cette zone, évidemment, les deux yeux peuvent comparer ce qu'ils voient. Et c'est là qu'on a le cortex binoculaire qui donne le sens de la profondeur, etc. Si je ferme un œil pendant la période critique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais déplacer, ça c'est une courbe de réponse. Chez une souris, je réponds plutôt dans le cortex aux afférences contralatérales, parce que les souris ont les yeux un peu sur les côtés. Donc en fait, elles ont assez peu de vision binoculaire. Les poulets n'ont pas du tout de vision binoculaire. Les oiseaux vous regardent toujours comme ça, vous avez remarqué? Les oiseaux ne sont pas capables de comparer ce que leurs deux yeux voient. Chaque œil voit une partie séparée du monde. Nous, on est extraordinairement binoculaire parce qu'on a les yeux en position frontale, comme les hiboux, comme les ours. Donc ici, vous avez surtout des réponses contralatérales, mais si vous fermez l'œil contralatéral, vous voyez que vos réponses se shift du côté ipsilatéral. Ça, c'est la marque de la plasticité. Et ça ne se produit que pendant la période critique, qui est chez la souris, pour le système visuel, est entre le 20e jour et le 40e jour de la vie postnatale. C'est quelque chose de tardif. À 5 semaines, une souris est sexuellement mature. Et donc, évidemment, la question, c'est cette plasticité, est-ce que je peux jouer dessus? Et oui, on peut jouer dessus. Ici, c'est un de mes collègues italiens qui s'appelle Lamberto Maffei, qui est un type qui a beaucoup travaillé sur la période critique. C'est ici un cortex eh bien, il y a des opérations qu'on peut faire. Ici, par exemple, supprimer les sucres complexes, ce qui fait que, alors qu'on est plus plastique chez l'adulte, vous voyez que je ne peux plus bouger si je ferme un œil, eh bien, si j'ai retiré des sucres complexes à la surface de mes neurones, je peux réinstaller de la plasticité. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'il y aura peut-être un jour, quand on aura compris la façon dont la plasticité s'opère et se manipule dans un système nerveux, on pourra rouvrir des périodes de plasticité. C'est important, bien entendu. C'est à la fois important de ne pas être trop plastique, parce que si on était plastique tout le temps, on oublierait tout. Hein, on ne saurait jamais qui on est, où on a rangé sa voiture, ce qui n'est pas très grave, mais où on habite, qui est son conjoint ou sa conjointe. Donc il faut un peu de mémoire dans le système. Mais en même temps, donc c'est un gain sur le plan évolutif. Hein. Il y a des animaux, par exemple, vous allez voir, il y a des animaux, on leur coupe le cerveau, ça repousse, hein, les salamandres. Vous leur coupez la moelle épinière, ils vous refont une belle moelle épinière. Je ne suis pas sûr que sur le plan intellectuel, ce soient des animaux extraordinairement évolués. Donc nous, nous avons ce gain, hein, qui est lié probablement à cette perte de plasticité, pas dans toutes les régions, il y a des régions qui restent plastiques. L'hippocampe, le bulbe olfactif, et peut-être qu'on y reviendra. Mais évidemment, il y a un problème, c'est que si vous avez un accident vasculaire dans une région du cortex, si vous avez une lésion, eh bien ça ne repousse pas. Voilà. Enfin, pour l'instant, peut-être qu'on y arrivera. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien là ? Ouais, peut-être que j'ai dormi. Bon. Donc cette période critique, je vous dis, est variable selon les régions. Là, ici, par exemple, une période critique qui est liée à l'apprentissage d'un instrument de musique. Vous voyez que le violon, par exemple, si vous commencez très tôt, quand vous allez regarder l'intensité physiologique, c'est-à-dire le niveau d'innervation, la densité de synapses, etc., que vous allez avoir dans les régions de la main, hein, chez un violoniste, vous allez voir qu'ici, c'est très très fort si vous apprenez à jouer du violon avant 10 ans, et puis quand vous allez apprendre un petit peu plus tard, vers 10, 15 ans, 20 ans, eh bien, votre plasticité diminue. Ça ne veut pas dire qu'elle soit nulle, hein, mais il sera très difficile de devenir un virtuose du violon si vous apprenez, à cause des problèmes simplement moteurs, de sensibilité de la main, eh bien, si vous apprenez de votre main cérébrale, de votre main représentée dans le cerveau, si vous vous y mettez un tout petit peu trop tard. Et vous voyez que là, la période critique est autour de 10, entre 10 et 20 ans. Alors, ça ne veut pas dire que toute la plasticité soit perdue dans le système nerveux. Il existe des zones dans le système nerveux où ça continue de se reproduire. Une des zones, c'est le bulbe olfactif, hein, ici, qui renouvelle ses neurones environ tous les deux mois, ses neurones, ses interneurones, une certaine classe de neurones, à partir de cellules qui sont des cellules souches, qui sont dans le ventricule latéral du cortex et qui migrent vers le bulbe olfactif pour s'insérer dans de nouveaux circuits. Il y a une autre région où on a une prolifération chez l'adulte, on a des précurseurs neuronaux, cette fois-ci, qui ne donnent que des neurones, des interneurones, c'est au niveau de l'hippocampe, hein, qui est une structure d'entrée dans le cortex. C'est-à-dire que quand vous commencez à mémoriser quelque chose, en général, ça passe par l'hippocampe et ensuite ça monte dans le cortex. Ou bien ça ne monte pas dans le cortex, c'est effacé. Et on pense, bien qu'on n'en soit pas entièrement sûr, que ce neurovénement neuronal au niveau de l'hippocampe, des voies d'entrée, joue un rôle dans ce processus de mémoire temporaire avant que la chose soit consolidée ou au contraire effacée. La prolifération de ces neurones peut être régulée de façon importante par des états émotifs. Et on pense en fait que les états dépressifs sont accompagné par une diminution ou de stress, accompagné par une diminution de la prolifération de ses progéniteurs chez l'adulte. Et d'ailleurs, les antidépressants peuvent restaurer une quantité normale de prolifération au bout de 2 ou 3 semaines de traitement. Hein. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est intéressant, c'est un travail qui a été fait par René Haine aux États-Unis, parce que quand vous donnez un antidépressant dépressif à quelqu'un qui est dans un état dépressif, sont des substances qui normalement agissent sur les neuromédiateurs. Et donc ça devrait agir tout de suite. Hein. Si vous bloquez la récapture de sérotonine, qui est un neuromédiateur important, hein, c'est l'effet Prozac, hein, eh bien vous devriez avoir un effet immédiat. Et en fait, c'est des effets qui mettent plusieurs semaines à s'installer. Donc il y a probablement un autre mécanisme qui joue derrière. Et René Haine à Columbia a proposé que cet autre mécanisme passe justement par le temps nécessaire pour réinstaller la prolifération de projets en neuro au niveau de l'hippocampe. Donc peut-être ici des mécanismes qui permettent de faire ou de fabriquer des antidépresseurs d'un genre nouveau. Le développement, comme vous pouvez le voir, est parce que le cerveau est un organisme plastique, dans lequel les neurones sont toujours en modification de forme, en tout cas, même s'ils ne se reproduisent pas, à part certains, comme je viens de vous le dire, ils ont quand même des modifications morphologiques importantes. Et de ce fait, comprendre les bases de ces modifications ouvre la voie à la découverte, je l'espère, en tout cas, nous l'espérons, de nouvelles stratégies thérapeutiques. Je vous disais effectivement que il y a des animaux comme la salamandre qui peuvent. Alors c'est pas un mille pattes, hein, c'est une salamandre. Voilà la patte. Au début on lui a coupé de chaque côté et puis vous voyez que au cours du temps la patte peut se reconstruire. Mais elle se reconstruit avec tous les organes, hein, avec le système nerveux, avec les systèmes vasculaires. Avec... Ça vous pouvez pas voir ça chez un vertébré supérieur. C'est un vertébré dit inférieur. Mais vous pouvez aussi observer au niveau du cerveau. Vous pouvez, je vais dire, retirer un morceau de cerveau et ça repousse. Il faudra comprendre pourquoi, si la salamandre peut le faire, pourquoi nous, on ne peut pas. Et le jour où on aura compris pourquoi une salamandre peut le faire et nous, pas, peut-être que là encore, on aura gagné accès. D'abord, une compréhension, hein, parce que les sciences sont aussi faites là pour comprendre et connaître, mais aussi, dans un but plus pragmatique, apporter des stratégies de réparation pour les maladies du système nerveux. Pas uniquement le système nerveux, parce que tout est reconstruit là. Ce qui m'amène à conclure, d'une certaine façon, ou à vous engager à conclure, sur le futur, d'une certaine façon, de l'évolution du cortex. Donc je vous ai parlé, on est passé des mouches, on est monté, c'est une façon de parler, hein, parce que les arthropodes sont aussi évolués que nous, dans un embranchement différent. On s'est séparés il y a 600 millions d'années, mais nous dans notre direction et eux dans la leur, mais peut-être les mouches qui vont gagner, hein, c'est même probable. Mais si on voulait penser à l'évolution future d'un cortex, eh bien, probablement que cette évolution, ce que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'elle se ferait par le biais des interfaces avec les machines. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Si vous pensez à Sapiens, il y a 120 000 ans, les 10 000 Sapiens au centre de l'Afrique, avec les lions, les tigres, les singes, il y avait très peu de chances que Sapiens s'en sorte. C'est même incroyable que 120 000 ans plus tard, ce qui est très peu, nous soyons 6 milliards, dont certains qui sont montés sur la Lune. C'est quand même assez émouvant quand on y pense. Mais un Sapiens tout petit, quand il naît, c'est très désarmé, c'est très appétissant pour un lion, je veux dire, un petit sapiens. Donc, si on s'en est sorti, pour combien de temps, j'en sais rien, mais si on s'en est sorti, c'est probablement à cause du lien social qui s'est créé, donc qui est nécessaire à la protection de l'enfant désarmé, et aussi grâce à la technique. C'est-à-dire que l'homme est un animal technique dès le départ. L'invention de l'arme, l'invention de l'outil ont été absolument nécessaires à sa survie dans un monde qui n'était pas forcément très favorable à ce néotène, c'est-à-dire à cet embryon sur pattes d'une certaine façon. Donc ces développements auxquels les neurobiologistes pensent aujourd'hui ne sont jamais que la poursuite, si vous voulez, d'une grande histoire, une histoire des cyborgs. Hein. Sapiens est un cyborg. Par nature. Le cerveau prolonge aujourd'hui, l'ordinateur prolonge aujourd'hui son cerveau, comme la bicyclette avait prolongé ses jambes, d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas de différence de nature. Mais évidemment, comme on a tendance à sacraliser le cerveau, probablement à tort, ça fait un petit peu peur. Il reste que beaucoup de ces stratégies pour développer nos facultés cognitives passent par l'analyse de ce qui se passe dans un cerveau au moment où il accomplit une tâche. Et ça peut être fait par des systèmes d'électrodes dans lesquels on va analyser une population de neurones, disons 100 ou 200 neurones, au moment où le cerveau accomplit une tâche. Par exemple, vous mettez un rat avec une pédale et un distributeur de jus d'orange, hein, et quand le rat appuie sur la pédale, ça ouvre le distributeur de jus d'orange. Je ne sais pas, ou de granulés, ou ce que vous voulez, je ne sais pas ce que mange le rat, ce qu'il aime ce jour-là. Mais en même temps, vous analysez avec vos électrodes ce qui se passe dans son cerveau. Hein. Et vous avez des mathématiciens et des ingénieurs qui sont capables d'analyser au niveau cortical la signature « Ah, j'ai envie de jus d'orange », entre guillemets, bien entendu. Et puis, de mettre ça dans un ordinateur, et quand le rat se prépare à appuyer sur la pédale, l'ordinateur sait qu'il va appuyer sur la pédale. Il ouvre le robinet tout seul. L'ordinateur ouvre. Et le rat apprend très vite que ce n'est plus la peine d'appuyer sur la pédale. Il ouvre le robinet par la seule force de la pensée. Hein, il pense jus d'orange, et paf, ça s'ouvre tout seul. C'est formidable. D'abord, c'est très amusant, parce que je vois que ça vous fait rire, mais c'est vrai que c'est très amusant. En même temps, mettez-vous dans la situation de quelqu'un, le corps devient une interface entre le cerveau et le biberon. Et mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui n'a pas de bras, ou qui n'a pas de main, ou qui ne peut pas. Et évidemment, ces stratégies qui sont stratégies de connaissance sont aussi des stratégies thérapeutiques, en tout cas, si on thérapeutique, elles sont supplétives. Les cellules souches, c'est bien gentil, vous savez qu'on ne sait pas très bien comment ça peut fonctionner, et c'est sûr que la réparation, en tout cas, peut passer aussi par le développement de ce type d'interface. Hein? Donc, ce sont des programmes qui ont été au départ développés par l'armée, ça ne vous étonnera pas. C'est bien les militaires, parce que leur problème, ce n'est pas de trouver de l'argent pour faire de la recherche, mais de savoir comment le dépenser. Ce qui a un point de vue très différent sur le plan d'un chercheur, parce que et du coup ils ont beaucoup d'imagination, parce qu'ils n'ont aucune limite dans ce qu'ils peuvent faire. Donc c'est eux qui ont développé ces premiers en disant bon, si je peux conduire un avion par la seule force de la pensée, vous imaginez, c'est très bien, ou réagir en temps réel sans me dire tiens, ça va tout seul, le cerveau pense tout seul. Donc ça c'est pas mal, et c'est eux qui ont développé ces premiers systèmes de multi-électrodes qui permettent d'analyser via les mathématiques, la signature de ce qui se passe, la signature. Alors, c'est évidemment très très limité, hein, parce qu'il y a des questions très importantes qui se posent. Par exemple, si vous avez quelqu'un à qui il manque un bras, hein, faire le geste moteur d'aller attacher son soulier, à la limite, c'est pas trop compliqué. Mais le problème, c'est le retour sensoriel. Et donc, il y a beaucoup de recherches actuellement qui se développent sur comment on peut... Parce que le retour sensoriel est nécessaire pour ajuster à chaque instant le mouvement. Hein. Donc, comment on peut ainsi fabriquer des prothèses qui sont à la fois des prothèses, évidemment, sur le plan robotique, mais aussi des prothèses qui sont sur le plan électrophysiologique. Et pour le faire vraiment bien, alors ça se fait au niveau de l'œil, ça se fait au niveau de la cochlée, vous savez qu'il y a des prothèses cochléaires. Pour le faire vraiment bien, mais évidemment, il y a un problème de comprendre... quelle est la logique du système. Parce que quand vous mettez une machine dans un cerveau, vous comprenez la logique de la machine, ça va. Hein. Mais la question, c'est qu'à cette interface, hein, entre la machine et le cerveau, eh bien, vous confrontez deux logiques qui sont deux logiques différentes. Une logique qui est une logique du développement et de la physiologie cérébrale. Une autre logique qui est la logique en fait, informatique ou électronique. Et si on comprend assez bien comment ça se passe à ce niveau-là, on comprend encore très mal comment ça se passe à ce niveau-là. Mais peut-être que cette confrontation nous permettra de comprendre comment fonctionne un cerveau. Car il faut avoir la sagesse et la modestie de dire que pour l'instant, nous sommes encore tout à fait débutants dans cette affaire. Alors, améliorer l'homme, oui. Vous allez dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'améliorer l'homme ? C'est par les techniques. C'est pas un fantasme nouveau. Hein. Vous voyez, ici, avant, ça s'est passé aux États-Unis. On faisait des communautés, la communauté Oneida par exemple, où on croisait les individus les caractéristiques les plus soi-disant intéressantes pour faire des races de surhommes, un petit peu comme on faisait aussi pour les animaux. Voilà, ici, eux, ils ont eu la médaille de la famille la plus adaptée. C'est pas si vieux que ça, hein, ça fait après à peu près une centaine d'années. Heureusement, on sait que c'est pas possible. On sait que c'est pas possible parce que, comme j'ai essayé de vous le faire sentir au cours de cette petite heure qu'on a passée ensemble, les stratégies d'adaptation sont très différentes entre les invertébrés d'une part, les vertébrés de l'autre, et l'homme au plus haut point pour ce qui concerne les vertébrés. Imaginez par exemple un ver, un nématode qui a environ 1000 cellules. Hein, qui se reproduit très rapidement, et puis vous allez avoir une modification du milieu extérieur. qui fait que tous vont mourir, sauf un, ici en rouge, parce qu'il avait une mutation particulière qui lui permet par exemple de résister à un abaissement de la température ou à une augmentation de la température. Et lui, il va se reproduire très rapidement et former un nouveau clone. C'est très très efficace comme mode d'adaptation. Il ne faut pas mépriser ça, c'est une forme d'intelligence, c'est une forme de pensée, cette forme d'adaptation. Mais c'est quelque chose qui est quasiment entièrement de mode génétique. Et la partie épigénétique, c'est-à-dire cette partie qu'on appelle individuation, c'est-à-dire la construction du système nerveux en réponse aux modifications de l'environnement au niveau de l'individu, est extrêmement faible chez un nématode, chez une mouche aussi relativement faible. Ça veut dire qu'il n'y en a pas. Hein. Par contre, si vous prenez un vertébré et au plus haut point sapiens, bien entendu, son imago, l'imago de son cerveau, c'est-à-dire ce qui caractérise la forme, qui caractérise l'appartenance à l'espèce, bien sûr, elles sont codées génétiquement. Un œuf d'homme sortira toujours un homme. Mais l'individuation, qui est le processus d'adaptation au niveau de l'individu, demande de l'épigénèse. C'est-à-dire que la part d'épigénèse est extrêmement forte. Et en fait, le cerveau, pour ainsi dire, change en permanence de forme au cours de la vie. C'est comme si l'évolution avait sélectionné des stratégies de développement qui mettent la charge de l'adaptation, non pas au niveau de l'espèce, mais au niveau de l'individu. Et en ce qui nous concerne, c'est heureux, parce que, ou malheureux, mais on se met à 2 pour en faire 2,2 en gros aujourd'hui, et ça nous prend environ une quarantaine d'années. Donc vous imaginez qu'une stratégie de sélection clonale à cette vitesse, ça serait voué à l'échec. Mais ce qui se passe, c'est que c'est cette construction permanente, qui ensuite, au niveau de la troisième forme de mémoire, une forme de mémoire, vous avez une mémoire génétique, vous avez une mémoire épigénétique qui est l'individuation par laquelle l'homme se différencie au cours de sa vie, c'est-à-dire qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même humain, d'une certaine façon, mais nous avons la troisième forme qui est la culture, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous engrangez dans une troisième mémoire qui est la culture, qui fait que la génération suivante ne repart pas à zéro, elle repart de ce qui était acquis par les générations précédentes, et jusqu'à la catastrophe finale. Mais pour l'instant, ça a pas mal fonctionné, puisque je vous l'ai dit, en 120 000 ans, nous sommes passés de 10 000 à 6 milliards, et c'est un succès évolutif tout à fait extraordinaire, qui est lié à cet organe insensé, à ces 900 cm3 de trop dont nous avons parlé au cours de cet exposé. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, et puis si on a 5 minutes, on peut prendre des questions, sinon je demanderai à M. Compagnon de me remplacer s'il est arrivé, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas s'il est d'usage de prendre des questions, mais on peut en prendre deux ou trois si vous avez des questions. Oui, monsieur.
À défaut de ne pas savoir comment fonctionne le cerveau, est-ce que nous pouvons envisager les grandes fonctions du cerveau, par exemple, mettons les plus tâches, et puis on va voir, on examine.
Non, mais il y a toutes sortes de stratégies, je comprends bien votre question. D'abord, quand je dis « on ne sait pas », c'est chez moi, c'est très rare, un excès de modestie, mais c'est surtout pour mes collègues que je parle. On sait deux, trois petites choses quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une idée que la logique du cerveau... Les gens ont pensé depuis Turing, et faussement, parce que Turing ne pensait pas comme ça à la fin de sa vie. Mais les épigones de Turing ont très très fortement développé cette idée du cerveau-machine. Donc on a longtemps vécu sur l'idée que la logique du cerveau était une logique au fond qui n'était pas très différente de la logique mathématique ou de la logique qui préside à la construction des machines. En fait, on en revient beaucoup, c'est-à-dire que personne ne sait véritablement quelle est la logique, s'il y en a une. Il y en a probablement une, mais qui préside ou les principes de fonctionnement de cet organe. Et voilà quoi. Ça veut pas dire qu'on ne sait rien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup encore à apprendre et qu'on se trompe très souvent, comme d'habitude. On sait pas mal de choses. Mais il y a encore des progrès à faire. Je crois qu'on ne sait pas surtout c'est les principes de base. C'est-à-dire que si on voulait développer une mathématique du vivant d'une certaine façon, on ne sait pas ce qu'elle serait. C'est-à-dire que moi j'irais chercher du côté de la géométrie, il y a quelque chose à inventer de ce côté-là. En tout cas, ce n'est certainement pas ce qui est applicable aux objets inertes, et en tout cas aux objets électroniques ou informatiques. En tout cas, c'est mon point de vue, hein, mais c'est un point de vue de géométricien, hein, puisque les animaux sont d'extraordinaires géomètres. Oui, monsieur. Oh, on a trouvé beaucoup de gènes qui interviennent sur beaucoup de comportements, oui. Ah ben, les gènes auxquels vous pensez, c'est des gènes du comportement moteur. Là, je vous ai montré que si on déplaçait un bord dans le cortex, pas dans le cortex en l'occurrence, c'est le bord entre ce qu'on appelle le mésencéphale, le cerveau moyen, et le métencéphale. Si vous déplacez ce bord, et ce n'est pas un gène, c'est une modification de l'équilibre entre deux gènes. OTX2, GBX2. C'est-à-dire que si je donne un avantage à OTX2, qui est le gène plus antérieur, je vais déplacer le bord entre ces deux domaines d'expression d'OTX2, GBX2. Et donc je vais faire une surface plus grande dans une zone où les morphogènes qui sont sécrétés fabriquent des neurones, permettent la différenciation de neurones qui sont des neurones qui font de la dopamine. Donc si vous faites ça, vous augmentez ce microclimat dopaminergique, entre guillemets, et vous faites des animaux qui sont hyper dopaminergiques. Et comme ils sont hyper dopaminergiques, ils sont hypermoteurs. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui ne trouvent pas le repos dans un système où normalement, au bout d'un certain temps, ils doivent aller s'endormir. Mais ça, ce n'est pas le gène, hein, c'est le bord. Hein, j'ai déplacé le bord. Et ça vous donne toute l'importance de ce processus qui conduit à la formation des bords. C'est-à-dire que là, j'ai déplacé le bord violemment. C'est-à-dire que j'ai retiré trois gènes dans un côté et j'en ai laissé l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de 1-1, je suis à 3-1. Donc c'est vraiment c'est violent. Mais imaginez qu'au cours du développement, pour des raisons qui sont liées à une infection virale ou à une dépression ou à un accident que vous ne connaissez pas, hein, un de ces gènes au cours du développement normal, pas muté pour autant, hein, pas muté pour autant, j'insiste, un de ces gènes est au démarrage, quoi, hein, ou à l'arrivée. Des fois, on faiblit au démarrage, des fois, on faiblit à l'arrivée, des fois, on faiblit aux deux. Mais, donc, l'autre va prendre un petit peu d'avance, hein, et vous allez déplacer légèrement votre bord. Même si vous avez le même génome que votre frangin, d'accord, vous allez légèrement déplacer votre bord par rapport à votre frangin. Et ça, ça veut dire que vous allez être légèrement différent à ce niveau-là. Alors, ça peut, les 99,% du temps, ça rentre dans une fenêtre physiologique, c'est-à-dire qu'on peut avoir 1% ou 2% de plus ou de moins de ces neurones, c'est pas grave. Mais si ça dérape, c'est-à-dire si le bord est déplacé trop, alors vous allez faire quelqu'un qui n'est pas adapté sur le plan physiologique. Et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que des maladies aujourd'hui de type, comment dire, oui, des pathologies mentales, d'une certaine façon, que ce soit la schizophrénie, mais je ne veux pas dire de nom parce que c'est absurde, mais beaucoup de maladies nerveuses sont liées à des aberrations qui se produisent au cours du développement. Hein. On le voit aujourd'hui, beaucoup de maladies psychiatriques comme des maladies développementales, fondamentalement. Non. Bien sûr qu'on ne peut jamais savoir à quel moment il y aura des traitements, mais déjà comprendre le processus, savoir de quoi il s'agit, c'est beau, quoi. Et les applications, comme on dit, se font ou elles ne se font pas, ça c'est une autre affaire. S'il n'y a plus de questions, je vais laisser la place à monsieur Compagnon. Ah, pardon. C'est une bonne question. L'effort se déplace tout seul. En fait, quand vous démolissez une partie du cerveau, vous avez les parties. Je vous ai montré que pendant la période critique, si je retire une partie des fibrilles ici, les territoires qui correspondent aux vibrisses adjacentes envahissent, c'est-à-dire que les vibrisses adjacentes sont plus sensibles d'une certaine façon. Hein. Et puis il y a d'autres exemples qui sont moins politiquement corrects sur lesquels je ne vais pas insister. Mais par contre, il est tout à fait faux de dire qu'on n'utilise pas 100% de son cerveau. Hein. Je vous ai dit au cours de mon petit développement que tout ce qui ne sert à rien n'existe pas. D'accord ? On a parlé longtemps du junk DNA, du DNA poubelle. 98% ou 97% du DNA dans le cerveau, dans une cellule. Vous imaginez que la force de la sélection naturelle étant ce qu'elle est, la contrainte. On serait amusé à aller mettre 2 mètres de long de fil dans un truc qui a 10 microns ou 5 microns de diamètre. Et ça demande du boulot parce qu'il faut compacter, surcompacter, recompacter, mettre les histones, les machins. Pour rentrer là-dedans, si on pouvait s'en débarrasser. Non, il n'y a pas de junk DNA. Le junk DNA, c'était une fantaisie. En fait, non, c'est des ADN qui sont extraordinaires, des séquences extrêmement importantes. Elles sont simplement régulatrices. J'en ai parlé au moment où je vous ai parlé de la différence entre l'homme et le singe. Il y en a pareil pour le cerveau. Vous utilisez 100% de votre cerveau, bien entendu. Alors, il y a des animaux qui n'utilisent pas 100% de leur cerveau. Ce sont les oiseaux, par exemple, qui l'hiver perdent des neurones. Hein. C'est-à-dire que les centres du champ chez le canari disparaissent à l'hiver. Après tout, ils n'ont pas besoin de faire leur cours aux dames canaries. Hein. Donc pourquoi se balader avec un truc en plus? C'est lourd, il faut voler. Donc, hein. Mais au printemps, avec la testostérone, ça repousse. Voilà. Donc, mais ça, nous, on ne fait pas ça. Je pense qu'il est temps de laisser la place aux gens sérieux.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.